C'est dans la joie, en effet, que nous sommes rassemblés ce soir, assez nombreux. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour chanter notre action de grâce pour la canonisation des deux papes Jean XXIII et Jean-Paul II. C'est le 27 avril, comme vous le savez, que le pape François a procédé à cette double canonisation. Et le choix de la date n'était pas anodin. Le 27 avril était en effet le dimanche de la miséricorde que saint Jean-Paul II a précisément promulgué, institué en l'an 2000, après avoir canonisé sainte Faustine Kowalska, sa compatriote, qui avait reçu cette révélation du Sacré-Cœur de Jésus, d'instituer dans l'Église universelle un dimanche liturgique de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques. Jean-Paul II était en effet décédé après les premières vêpres de ce dimanche de la miséricorde, le 2 avril 2005, comme on s'en souvient. Et aujourd'hui, 18 mai, une petite coïncidence aussi. C'est le premier jour libre pour moi, pour célébrer cette messe d'action de grâce dans la cathédrale. Et il se trouve que le 18 mai est le jour anniversaire de la naissance de Jean-Paul II. Le 18 mai 1920, il aurait 94 ans aujourd'hui. Un petit indice intéressant pour saint Jean XXIII, il est entré dans cette cathédrale lorsqu'il était le nonce apostolique à Paris, Monseigneur Roncalli, avant de devenir patriarche de Venise. En 1951, peut-être que les plus anciens parmi nous s'en souviendront, il est venu présider à l'invitation de l'évêque de Bayonne un grand congrès jubilaire de cette année jubilaire 1950, en 1951. Il est certainement entré dans cette cathédrale pour s'y recueillir. Il faut savoir qu'il écrira, après ses jours mémorables, à l'évêque de Bayonne, comme le rappelait tout à l'heure l'abbé Fabas, qui est un grand historien de cette période de la vie de l'Église, et en particulier de notre diocèse, il écrira qu'il n'a jamais été aussi bien reçu dans un diocèse de France, et que certainement Bayonne est le plus beau diocèse de France. Entendons et accueillons la parole d'un saint, pour essayer d'y correspondre, pas pour nous enorgueillir. Arrêtons-nous quand même sur ce geste un peu insolite pour un pape que de canoniser deux de ses prédécesseurs, quasi immédiats, qu'il a connus, et que tous plus ou moins, pas les plus jeunes sans doute, pour Jean XXIII en tout cas, nous avons connu. Bon, je n'avais qu'un an lorsque Jean XXIII a été élu, autant dire qu'il n'a pas beaucoup marqué ma vie, mais la vie de beaucoup d'entre vous, le bon pape Jean. Le pape François canonise deux papes, lui dont on a dit qu'il voulait minimiser l'importance du pape dans l'Église. Et puis, j'allais dire, il en remet une couche, et il canonise deux de ses prédécesseurs. Ne croyez pas pour autant que ce soit du favoritisme, même si Benoît XVI, pour répondre à la vox populi, pour Jean-Paul II, à la voix du peuple de Dieu, a pris la décision de raccourcir le délai d'ouverture d'un procès de béatification pour son prédécesseur, dont il a été l'ami et le collaborateur à Rome pendant près de 25 ans. Vous savez bien qu'une enquête de béatification ou de canonisation est une analyse rigoureuse. Tout est passé au peigne fin, que ce soit de ce qui a été écrit, dit oralement, et aujourd'hui avec les moyens technologiques, on a toutes les bandes sonores, de ce qui a été vécu, des analyses parfois contradictoires, où l'on prend très au sérieux les contre-témoignages qui sont apportés par ce que l'on appelait autrefois l'avocat du diable, et qui est aujourd'hui plus softement dit, si je puis dire, le promoteur de justice. Pas de favoritisme. Ils ne sont pas saints parce qu'ils sont papes. D'ailleurs, ce sont les saints qui sont les vrais réformateurs de l'Église, non pas les papes. C'est Benoît XVI qui disait cela dans une merveilleuse catéchèse sur saint François d'Assise, dont je me souviens encore. Il disait, à une période de la vie de l'Église qui avait tant besoin de réformes, nous sommes au XIIe, XIIIe siècle, où certains hommes d'Église ont oublié de conformer leur vie à l'Évangile, en particulier sous le signe de la pauvreté. Il disait, ce n'est pas le pape Innocent III qui va réformer l'Église, mais c'est saint François d'Assise et c'est saint Dominique, les fondateurs des ordres mendiants, de ce renouveau évangélique qui a profondément réformé l'Église de l'intérieur en cette période troublée de l'histoire de l'Église. Mais quand les papes sont des saints, alors on peut dire qu'ils sont doublement les vrais réformateurs de l'Église. Et c'est tellement important pour aujourd'hui, à une époque où l'Église est tant décriée, où les médias cherchent à débusquer le moindre contre-témoin, contre-témoignage, pour ternir le message et infirmer la crédibilité de l'Église dans la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de l'espace et du temps. Le pape, grâce aux moyens de communication moderne, n'est-il pas le premier porte-parole du message de l'Évangile? La première image de l'Église qui va bien au-delà des frontières visibles de notre communauté, jusque aux extrémités de la terre, dans les moindres foyers, chez tous ceux qui ne se réclament pas nécessairement de l'Église. Comme c'est important pour le pape François que de pouvoir donner en exemple à l'Église et au monde deux papes qui ont marqué l'histoire de l'Église et du monde dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Et au début de ce XXIe siècle, je pense bien sûr particulièrement à Jean-Paul II. Vous me permettrez d'en parler un tout petit peu plus que Jean XXIII, parce qu'il a davantage marqué ma vie. Je suis sans doute déjà de la génération Jean-Paul II, qui a accompagné ma formation sacerdotale au séminaire, ma jeunesse cléricale, jusqu'à la prise de responsabilité comme vicaire général du diocèse de Toulon. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il a marqué des générations entières. Sans doute que la plus grande partie de ceux qui ont assisté à cette double canonisation de saint Jean XXIII et de saint Jean-Paul II étaient de la génération Jean-Paul II qui s'est étalée sur plus de 30 ans. Combien de familles, combien de fidèles laïcs, combien de jeunes d'hier et d'aujourd'hui, combien de jeunes prêtres, de séminaristes, de communautés nouvelles, de nouveaux instituts de vie consacrés doivent à Jean-Paul II, à son ministère pétrinien pendant près de 27 ans, leur engagement comme disciples et missionnaires, alors que nous sommes entrés dans le nouveau millénaire. Lorsque le pape François a canonisé Jean XXIII et Jean-Paul II, avec la sobriété qui lui est coutumière, il a dit que peu de choses de l'un et de l'autre, mais de manière suffisamment significative pour que nous en mesurions le poids pour la vie de l'Église aujourd'hui. De Jean XXIII, il a retenu qu'il sera le pape de la docilité à l'Esprit Saint, lui qui a ouvert ce grand événement du Concile Vatican II, non pas avec une stratégie politique derrière la tête, et par une intuition un peu inattendue, qui ne peut venir en effet que de l'Esprit Saint. C'est dans le même Esprit Saint qui a présidé à l'ouverture du Concile que nous devons nous-mêmes en recevoir l'enseignement, l'interpréter de manière juste et le mettre en œuvre dans la vie de l'Église comme une œuvre de réforme, mais de réforme intérieure, je vous le répète, chers frères et sœurs. Les vrais réformateurs de l'Église ne sont pas les agitateurs, ne sont pas les révolutionnaires, ne sont pas les syndicalistes, mais ce sont les saints. Saint Jean XXIII, qui a ouvert le Concile avec une intuition bien précise, saint Jean-Paul II, qui l'a mis en application, qu'il l'a mise en œuvre, quitte à en corriger les fausses interprétations et les malentendus dans certaines applications. Canonisés ensemble, Jean XXIII et Jean-Paul II, pour le pape François, c'est les établir dans l'unité, la communion. Ceux qui pensent que Jean-Paul II a trahi le Concile, que l'esprit du Concile ne s'est pas appliqué dans sa mise en œuvre, se trompent, car tous deux sont ensemble canonisés. Pour que nous puissions, comme disait Benoît XVI, accueillir le Concile, non pas selon une interprétation extérieure et politique, ce qu'il a appelé le Concile des médias, dans lequel, dans l'Église, parfois, on s'est même engouffré, mais recevoir et interpréter le Concile à partir de la foi, dans la docilité à l'Esprit Saint, qui est l'âme de l'Église, qui accompagne le magistère de l'Église, et que nous avons tous reçu pour adhérer de manière infaillible et de manière unanime au magistère universel, ordinaire de l'Église. Le Concile des Pères, comme disait le pape Benoît XVI, qui est le Concile de la foi, et qu'il faut accueillir dans la foi. Pour Jean-Paul II, le pape François aurait eu l'embarras du choix. Il aurait pu l'appeler le pape de la Vierge Marie, Totus Tuus, dont il a été miraculé lors de son attentat le 13 mai 1981, jour anniversaire des premières apparitions de Notre-Dame à Fatima. Il aurait pu l'appeler le pape de la miséricorde, qui a dit lui-même que la miséricorde était le fil conducteur de tout son pontificat. Il aurait pu l'appeler le pape de l'espérance, pour ces peuples qui ont été libérés par son magistère si puissant dans l'Église et dans le monde, dans les années 80-90. Il aurait pu l'appeler le peuple des jeunes, lui qui a eu cette intuition géniale des journées mondiales de la jeunesse, ce pèlerinage des jeunes, disciples et missionnaires à travers le monde entier, pour donner toujours plus de visibilité à l'Église et la conscience de leur identité catholique à tant de jeunes qui se sont engagés dans l'Église et dans le monde à la suite de Jean-Paul II, le Grand. Mais il a choisi de l'appeler le pape de la famille. Comme cela est significatif, à l'heure où la famille est tellement menacée, pour reprendre une expression de Jean-Paul II, tellement agressée, que le pape François a convoqué deux synodes, coup sur coup, un extraordinaire en octobre 2014, un ordinaire en octobre 2015, pour se pencher sur les défis pastoraux de la famille dans le monde d'aujourd'hui et offrir le trésor de doctrine et d'accompagnement pastoral de l'Église à la société d'aujourd'hui, où la famille est tellement fragilisée. Comme pour nous dire cet enseignement extraordinaire du pape Jean-Paul II sur l'amour conjugal, sur la sexualité humaine, sur la famille comme sanctuaire de vie et d'amour, éclairera l'Église dans la recherche de moyens toujours plus crédible pour accompagner les familles, en particulier celles qui sont fragilisées dans notre société d'aujourd'hui. On pourrait l'appeler enfin le pape de la nouvelle évangélisation, qui, à la suite du Concile Vatican II, du pape Paul VI, dans l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, nous a appelés à cette nouvelle évangélisation, à cette nouvelle annonce de l'Évangile, nouvelle par l'ardeur, qui doit être celle de l'ardeur apostolique dans l'esprit de la Pentecôte, nouvelle par son langage, nouvelle par ses moyens et ses méthodes, toutes inspirées par l'Esprit Saint, dans la docilité à l'Esprit Saint de la Pentecôte, qui veut un nouveau printemps, une nouvelle Pentecôte pour l'Église, comme le prophétisait déjà Saint Jean XXIII au moment du Concile. La parole de Dieu qui vient de nous être partagée en ce cinquième dimanche de Pâques nous appelle tous, chers frères et sœurs, à un nouvel élan missionnaire, nous rappelle que l'Église existe pour évangéliser, tous, nous avons reçu l'imposition des mains, que nous soyons évêques, prêtres, diacres, consacrés, fidèles laïcs. Quant à vous, au jour de votre confirmation, alors que nous procédons en ce moment à tant de confirmations de jeunes et d'adultes dans l'Église, l'imposition des mains des apôtres, de cette première lecture des Actes des apôtres que nous venons d'entendre, et la prière des apôtres pour annoncer l'Évangile. Nous qui sommes les pierres vivantes, qui constituons un peuple saint, qui appartient à Dieu, c'est cela que veut dire la belle expression conciliaire, le peuple de Dieu, chargé d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Chers frères et sœurs, comme ils sont nombreux, les hommes et les femmes qui nous côtoient, qui cherchent le chemin qui conduit à la vérité dans toute sa plénitude, une vérité sur le sens de la vie qui soit capable d'embrasser toute l'existence, pas une vérité partielle qui peut laisser insatisfait et souvent déçu ou découragé. Une vie pleine, pas seulement au rabais, qui laisse profondément insatisfait l'homme dans ses interrogations les plus existentielles, en recherche d'un sens ultime à sa vie. Et la réponse, nous la connaissons. Ça n'est pas une idée, une recette, une idéologie ou un slogan. C'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, le pape Jean-Paul II disait dans sa première encyclique « Redemptor hominis », l'encyclique programme de tout son pontificat, qu'il a écrit lui-même, le rédempteur de l'homme. Il dit « L'homme est la route de l'Église ». C'est l'esprit du Concile Vatican II, cela, chers frères et sœurs. L'homme est la route de l'Église. Ça veut dire que l'Église doit aller à la rencontre de l'homme. Il n'y a rien d'humain qui soit étranger à l'Évangile et à la mission de salut du Christ Jésus. Avec une infinie bienveillance, quels que soient les écarts, quels que soient les péchés du monde, nous devons aller à l'homme avec cet amour de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Mais si l'homme est la route de l'Église, le Christ est le chemin de l'homme vers la vérité tout entière, vers la vie éternelle qui n'a pas de fin. C'est notre mission que de permettre aux hommes de notre temps, vers lesquels nous allons avec tant de bienveillance, tant d'amour, en contact avec le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Sommes-nous assez convaincus, chers frères et sœurs, par notre expérience personnelle et communautaire, que le Christ est le seul chemin par lequel l'homme puisse aller vers le Père, que s'il est éliminé, comme les bâtisseurs qui avaient éliminé cette pierre d'angle choisie par Dieu, précieuse, de grande valeur, si le Christ est éliminé de la vie des hommes, alors les hommes tomberont, chuteront, seront détruits. Voilà notre mission que nous voulons confier particulièrement aujourd'hui à ces deux saints papes qui ont fait entrer l'Église non seulement dans le troisième millénaire, mais dans une nouvelle Pentecôte et un nouveau printemps missionnaire. Saint Jean 23, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Amen.